Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes le lundi 5 juin 2023 et nous sommes heureux d'être dans ce studio et de nous retrouver connectés avec vous sur Canal FM dans Lomé et ses environs, mais également vous qui nous recevez, qui nous écoutez sur les antennes de Radio Lumière qui émet depuis Anéro, Radio La Paix, la voix des plateaux depuis Atakpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio Asama FM depuis Baga Niamtougou, Radio Courtoisia Dapon, de même que les radios numériques Radio Le Bénin, Ebene Radio et d'autres canaux numériques par lesquels vous écoutez le Club de la Presse un peu partout en Afrique, dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Océanie, partout sur la planète Terre. Nous disons merci aux techniciens qui nous accompagnent au jour le jour. Aujourd'hui, c'est le duo Vitogbe Koku Michel Tomega et Gérard Kodjo Akucha. Au studio, déjà deux confrères installés autour de la table. Nous attendons deux autres pendant que un ami et confrère a fait le voyage exprès depuis Cara et pour être avec nous ici pour nous saluer. Vous saurez tantôt de qui il s'agit. Mais laissez-moi vous dire que au menu du Club La Presse, nous allons revenir sur les ultimes hommages qui seront suivis de l'inhumation de Abdou Assouma, qui a présidé pendant près de 16-17 ans la Cour constitutionnelle du Togo après une carrière bien remplie en tant que magistrat et un intermède politique et des droits de l'homme. Et c'est aujourd'hui que commence le recensement électoral dans la zone 3 du Togo et d'autres sujets que nous avons déjà trouvés dans les journaux parus au jour le jour. Pour introduire cela, quoi de plus normal de se nourrir d'un peu de philosophie quand le sage nous dit en pensée du jour que pour s'entendre, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes idées. Il faut seulement se témoigner le même respect. Encore une fois, pour s'entendre, nous n'avons pas besoin d'avoir les mêmes idées, seulement on nous demande de nous témoigner le même respect. Boukari Mouchoud, qui est venu spécialement de Cara et qui a tenu à faire un tour ici au Club La Presse, il va nous saluer et vous allez écouter de sa voix comment il se porte. Et comment se portent nos compatriotes de Cara et toutes les régions qu'il a traversées depuis Cara jusqu'à Lomé. Mouchoud Boukari, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et auditrices de la Radio Chérie, Canal FM.
Ah, ça nous fait plaisir.
Bien sûr.
Radio Chérie.
Oui, parce que nous suivons Canal FM.
Vous nous suivez depuis Cara.
Sama FM.
Ah oui, sauf que ça fait un bon moment que toi-même, tu n'interviens plus dans le Club de la Presse. Non, alors que par moment, tu étais un peu notre antenne à Cara.
Oui, je continue bien sûr de le faire.
Le micro, s'il te plaît.
Je continue bien sûr de le faire, sauf que, bon, il y a certaines préoccupations qui me retiennent encore beaucoup plus que... c'est ça qui explique un peu mon absence.
Merci. En
mais
tout cas...
Je vais reprendre quand même.
À moi, ça fait chaud au cœur. Toi-même, tu vois, même les techniciens, même les confrères de la rédaction, comment on t'a salué quand tu es arrivé. La confraternité, c'est pour nous, à Canal FM, au Club de la Presse, c'est quelque chose. Et c'est pas Harry Miaou Tchanyaou de Nouvelle Opinion qui va me démentir.
Bon, bonjour d'abord. Bonjour aux amis ici en studio. Bonjour aux Togolaises et aux Togolais qui nous écoutent de partout dans le monde. Au Togo ici, à l'étranger, comme vous venez de le dire. Et ça fait vraiment chaud au cœur de retrouver un confrère comme Boukari qui, je crois, est venu spécialement pour assister aux obsèques de Feu Assouma, vous avez dit qu'on va en parler tout à l'heure et qui a fait aussi le plaisir d'être avec nous à ce studio ce matin.
Merci.
Ça fait chaud au cœur.
Uriel Kapala et Nyang de Mega Info, bonjour.
Bonjour Innocent Sassegao, bonjour à tout le monde ici présent. Et je voudrais, si vous permettez, dire un bonjour spécial à tous ces maires qui font un effort pour que les feux tricolores fonctionnent à merveille dans leur commune. Mm-hmm. Et je voudrais les encourager à continuer ainsi parce que la sécurité des usagers de la route en dépend. Pour ceux qui ne le font pas jusqu'ici et ils mettent notre vie en danger, je laisse celui qui me suit en âge pour leur attribuer un carton peut-être à la fin.
Merci. Omer, nous disons bonjour comme Omer, M-A-I-R-E, nous disons bonjour comme également Omer, M-E accent grave, R-E-S, c'est la fête des mairies à 24 heures d'intervalle. Hein, nous revenons à vous, vous sans qui nous n'aurions même jamais été. Didier Komiya Sogba de Togo Breaking News, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés en studio et bonjour oui, à tous ces maires dont tu viens de parler.
Merci. Et le dernier confrère qui vient de nous rejoindre, c'est Jean-Baptiste Kodjovia Ticho de Corps Diplomatique .tg. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à ceux qui sont câblés sur la 93.5 et sur le site internet de votre radio et qui nous écoutent à travers le monde entier.
Merci. Je constate que quand je vous regarde, hein, vos compagnes, vos épouses, vos femmes s'occupent de vous autant, voire même mieux que votre maman l'avait fait pour dire que hein, les femmes ont toujours de la suite dans les idées. Qu'elle soit mère, épouse, ou sœur, ou camarade, ou copine, n'est-ce pas, Arimiaou?
Absolument. C'est vrai. Nos femmes, elles sont à l'honneur. Elles ont été à l'honneur hier. Et je continue de croire que les gens sont en train de les célébrer encore ce matin. Et comme vous l'avez dit, nos femmes à la maison, nos sœurs, nos petites sœurs, nos unes et tous, elles sont quand même à respecter parce que c'est par elles que nous vivons au monde et c'est elles qui s'occupent de nous. Quand on est bébé, la maman fait tout pour nous et c'est pourquoi elles restent chères et gravées dans nos cœurs. Bonne fête, bonne suite de la fête à nos mamans. Et ce n'est que mérite tout ce qui se fait depuis hier jusqu'à ce jour que je continue pas à voir sur les réseaux sociaux et également sur les murs, hein, les toiles de tout ce que les gens ont pu faire pour les accompagner.
Merci. Nous parlons beaucoup des mères et nous attendons ce que les mères, la façon dont les mères vont nous renvoyer l'ascenseur quand ce sera le tour des pères dans deux semaines. Eh bien, cette émission, nous la démarrons véritablement avec un petit tour dans un pays, frère et voisin, c'est le Sénégal. Le Sénégal, le fauteuil présidentiel, la justice et les manifestations de rue. Et aujourd'hui, même si vous prenez le confrère Liberté, vous verrez la caricature à la page 5 intitulée « Le Sénégal sur une pente glissante hein, ». Le Sénégal sur une pente hein, glissante. C'est comme ça que Liberté a intitulé sa caricature. Et le Sénégal nous inspire ce petit billet. D'après ce que nous suivons sur les médias et sur les réseaux sociaux, le Sénégal offre depuis quelques jours un spectacle de guerre qui vire par endroits à des sortes de chaos. Le bilan parle de lui-même. 16 morts enregistrés, 350 blessés, 500 arrestations, et ça c'est le bilan officiel, et à côté, il y a ce que vous voyez, à savoir les destructions d'infrastructures socio-économiques publiques, hein, des banques, des boutiques et autres biens publics et privés qui se retrouvent pillés et détruits. L'armée sénégalaise a été appelée en renfort, et ceci pour appuyer la police et la gendarmerie. Et on voit dans les rues de Dakar des patrouilles, hein, les patrouilles d'une capitale Dakar qui offrent un spectacle de siège, de destruction de rue. L'administration publique est au strict minimum. Les transports publics pratiquement plus, puisque les bus ont été incendiés. Les écoles fermées, alors que c'est la saison des examens officiels de l'année. Les communications électroniques drastiquement restreintes. Pauvre Dakar, pauvre Sénégal, généralement si fier du fonctionnement de son système démocratique, hein, des libertés d'expression et de manifestation publique. Tout est parti de l'intérêt prêté au président en exercice Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat présidentiel en février 2024, et ce, en violation, selon ses oppositions, des dispositions constitutionnelles et de sa propre parole de président comme Macky Sall. Et lesquels opposants, dont surtout Ousmane Sonko, s'estiment victimes d'une justice mise au service par Macky Sall pour faire le vide autour de sa personne, autour de son éventuel troisième mandat hypothétique. Et pour protester contre cette double cabale politique et juridique, Ousmane Sonko appelle à ses côtés le peuple souverain, dont certaines couches sociales confondent les manifestations publiques à des destructions et pillages des biens publics et privés. Au club de la presse, nous espérons qu'aussi bien le président Macky Sall et tout l'appareil d'État de son côté, que Ousmane Sonko et ses partisans de l'autre se garderont bien de franchir le Rubicon, de commettre l'irréparable. Le Sénégal de Léopold Sédar Senghor, d'Abdou Diouf et même d'Abdoulaye Ouad ne méritent pas ce que nous pouvons craindre dans une Afrique de l'Ouest dont la boulimie du pouvoir et les récurrents problèmes de bonne gouvernance et d'instrumentalisation de la justice facilitent les avancées des extrémistes violents et des terroristes. Le Sénégal a deux rendez-vous en 2024. D'un côté, l'élection présidentielle en février et de l'autre, l'entrée de ce pays dans le cercle des pays producteurs et exportateurs d'hydrocarbures. C'est sur ces deux rendez-vous que nous attendons le Sénégal et pas ce triste spectacle que ce pays nous offre actuellement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nangadef, pour dire bonjour à tous les Sénégalais et Sénégalaises qui nous suivraient actuellement. Je ne peux pas ne pas vous écouter sur la situation au Sénégal. Alors, vous avez chacun une minute, 90 secondes, pour nous dire ce que vous pensez du Sénégal. Uriel Enyang.
Bien, je pense que le billet là a été très bien réfléchi. Mais à l'heure où nous parlons, j'ose croire, et je le sais bien, que la situation n'est pas si alarmante que nous le pensons, parce que j'écoute les informations, je suis la situation. Quand même, la situation n'est pas si alarmante que ça. Vous avez fini en citant Sénégal d'Abdou Diouf, de Léopold Sédar. Moi, je dirais le Sénégal de Sadio Mané, parce que c'est l'homme de notre temps. C'est la référence du Sénégal. Les autres, bon, on connaît ce qu'ils ont fait, par où ils sont passés. Mais aujourd'hui, je crains que le peuple ne soit emporté dans la naïveté, parce que toujours en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou partout en Afrique, ces soulèvements n'aboutissent à rien. Ils peuvent aboutir au changement du régime, mais celui qui vient n'a jamais démontré ce que le peuple attendait. C'est ce qui est vraiment dommage.
La preuve, il y a une dizaine d'années, Macky Sall tenait les propos que tient aujourd'hui Ousmane Sonko contre lui.
Tout à fait. Même Adama Barrow de l'autre côté.
En Gambie.
En Kinari, vous avez vu comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, je ne vois en quoi ce pays a changé parce que Yahya Jammé est parti. Vous voyez, ces soulèvements, on doit faire extrêmement attention. Depuis que ça a commencé au Sénégal, moi, je m'inquiète parce que il y a l'effet des masses, il y a la naïveté. Qui dit aux Sénégalais que c'est le Messie, Ousmane Sonko, c'est le Messie du Sénégal? Moi, je souhaiterais plutôt que les gens aillent au respect de la loi, les gens prennent les procédures normales, que les gens analyse les conséquences des actes qu'ils sont en train de poser. Vous avez parlé de 16 morts. L'opposition parle de 19 morts. Que ce soit 16 morts ou 19 morts, ce sont des vies humaines qui sont parties pour rien. On ne devrait même pas y arriver. Laissez celui-ci finir son mandat. Le jour, il va dire je serai candidat. Là, vous allez protester. Jusqu'ici, il n'a rien dit. Moi, je ne vois pas pourquoi on cause des morts, des dégâts matériels.
Il n'a encore rien dit officiellement, mais tout le monde s'accorde a dit qu'il entretient une certaine ambiguïté. C'est comme ça que ça a commencé ailleurs et ça s'est fini effectivement par ce troisième, ce quatrième, ce énième mandat. Espérons que Macky Sall va démentir les plus pessimistes à son endroit. Didier Assogba.
Ben, je crois que ce qui se passe au Sénégal est très triste. S'il y a un autre mot plus fort que ça, on l'aurait utilisé. Mais c'est juste dommage pour le Sénégal que nous prenions jusqu'à il y a quelques jours encore comme un exemple de démocratie, de démocratie et tout ce qui caractérise d'ailleurs la démocratie, l'alternance et tout ce qui va avec. Un exemple en Afrique de l'Ouest. On pensait que c'était le Bénin, on a vu le Bénin. Et après, maintenant, c'est le Sénégal qui est également tombé dans la nasse de tout ce que nous connaissons pour les pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest. Et c'est véritablement assez dommage. Et dire que c'est un des chantres même de la démocratie hier, Macky Sall, dont on a encore les déclarations en mémoire. Or, sur les réseaux, tout le monde cherchait, écoutait à loisir, qui entretient un silence suicidaire pour le Sénégal et qui d'ailleurs provoque tout ce que nous vivons actuellement et tout ce que nous entendons au niveau du Sénégal. C'est éminemment dommage pour un homme d'État qu'a été Macky Sall ou qu'est Macky Sall, un homme démocratique c'est le statut qu'on lui prêtait jusqu'à il y a peu. Parce que s'il n'a pas la volonté de briguer un troisième mandat, comme il l'a plusieurs fois déclaré d'ailleurs, il aurait pu déjà mettre fin à ce suspense et on comprendrait que tout ce qui se passe maintenant au niveau du Sénégal n'est pur processus de justice et on comprendrait mieux. Mais on a vu tout à côté ici au Niger, lorsque le président Issoufou ne voulait pas et contre toute attente d'ailleurs, parce que c'était la mode d'époque de briguer un troisième mandat, et comme il ne voulait pas, et comme il ne veut plus non plus mettre son pays en danger dans le soulèvement et les destructions, tout ce qu'on connaît au niveau du Sénégal, il a pris son courage de faire un discours et de le dire clairement qu'il n'est pas candidat à un autre mandat. Et on a vu, le Niger a passé cette transition-là tranquillement et un nouveau président qui est en exercice, que c'est bon ou que ce n'est pas bon, du moins si le Niger a connu un peu de paix. Je pense que Macky Sall aurait pu offrir ce cadeau à son Sénégal si cher à lui, en sortant tranquillement et en parlant clairement à son peuple à dire s'il ne voulait pas véritablement faire un troisième mandat. Mais le silence d'habitude, et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, le silence d'habitude, quand il se prolonge comme ça, ça finit toujours par une nouvelle candidature, un autre mandat, et les gens ont compris déjà le jeu, parce que ça s'est passé partout ailleurs, dans la zone ici en Afrique de l'Ouest, et les gens ont compris. Parce que des fois même, c'est à la veille de la fin de dépôt des candidatures que des gens déposent leurs candidatures, se prononcent finalement, et c'est devant le fait accompli. Et là, les Sénégalais en avisés essayent d'anticiper ces choses, et je pense que s'il y a quelqu'un actuellement au niveau du Sénégal qui peut calmer le pays et qui peut permettre au pays de reprendre un cours normal, une vie normale pour la suite jusqu'aux élections, je pense que il n'y a pas mieux que Macky Sall, parce que tout ce qu'on prête, tout ce qu'on va dire des opposants, des oppositions, le procès Sonko, et là c'est un procès, tout le monde dit, c'est un procès du siècle, le chef d'accusation essentiel pour lequel on poursuit l'opposant, il est acquitté. Et c'est d'autres choses qu'on lui colle. Donc, ça veut dire, ça confirme à peu près la théorie de complot et tout ce qu'on dit autour de ça. Et je pense que ce n'est pas mieux, c'est pas bien pour Macky Sall et ce n'est pas du tout bien pour le Sénégal.
Merci Didier. Je fais mon tour avec Kodiovi et Jean-Baptiste.
Oui, ça, c'est, je crois que, comme on le dit en science, que la nature a horreur du vide. Et c'est justement le vide et le flou que Macky Sall est en train d'entretenir autour de sa candidature qui, ma foi, réveille les vieux démons dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, parce que, vous savez, depuis quelques décennies maintenant, on voit que les présidents sortent qui nourrissent l'ambition de briguer un troisième ou quatrième ou cinquième mandat, toujours ils sont là et les potentiels challengers qui pourraient quand même leur tenir tête, ils essaient de trouver des alibis pour les écarter. Pour les écarter et avoir le chemin libre pour pouvoir briguer leur mandat. Et surtout, c'est la justice qui est mise à contribution pour pouvoir les écarter avec des arguments qui ne tiennent pas vraiment la route. Et on les écarte et beaucoup de ces potentiels challengers sont obligés de fuir le pays ou bien d'être emprisonnés. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement au Sénégal. Et pour ne pas se mettre devant les faits accomplis, les Sénégalais ont compris ou bien ils veulent anticiper sur le jeu flou que mène leur président pour pouvoir mettre la barre très haut en extériorisant leur ras-le-bol face au mutisme qu'il est en train d'afficher pour pouvoir devancer son intention. Et Didier l'a dit tantôt, c'est toujours comme ça. On maintient le flou jusqu'à à la veille et puis on se prononce pour un troisième ou un quatrième mandat. Alors que normalement, si on ne veut pas des pertes en vies humaines, alors, il le faut, si on est un grand démocrate, on le dit clairement, pour mettre l'opinion clarifier la situation en bon démocrate, pour ne pas perdre inutilement ses vies. 16 morts, 19 morts, est-ce qu'ils vont être ressuscités? Jamais. Le jour où il va se décider, est-ce que les gens cela vont être ressuscités?
Arimiaou?
Non, moi je crois que vous avez dit pauvre Sénégal, j'ai dit plutôt pauvre Afrique. Pauvre Afrique parce que pour moi, ce qui se passe au Sénégal, c'est un ballon d'essai. Les gens veulent retourner aux anciens amours. Quand ça va passer au Sénégal, vous allez voir que vos pays vont reprendre la main.
Non, ça, c'est pas dans d'autres pays.
Oui, non. Sérieusement, les gens vont reprendre la main de façon sérieuse. Parce que quand ça se passe, c'est dans une zone CDAO que ça se fera. Et demain, vous allez voir que ça va devenir une expérience que tout le monde va faire à côté de nous. Les gens vont tenter à l'ouest, les gens vont tenter à l'est, un peu partout, les gens vont s'essayer. Et moi, j'ai honte quand il s'agit d'un président comme Macky Sall. Vous avez dit quelque chose de très pertinent. Il fallait qu'on tourne autour de cela. Parce que Macky Sall est venu dans le combat qu'on est en train de faire pour de sa personne aujourd'hui. Il a combattu Ouad pour le même problème. Et je ne crois pas entendre que Macky Sall devait être aussi hypocrite pour tuer les Sénégalais. Ceux qui meurent aujourd'hui, c'est lui qui les tue. C'est parce que Macky Sall est hypocrite. Il ne dit pas ce qu'il a sur le cœur que les gens lui prêtent des intentions. Vous avez suivi hier le maire de Dakar. Le maire de Dakar a appelé. Il a appelé Macky Sall. Macky Sall, président de la République, qui tient toutes les manettes du pouvoir, qui tient tout, a dit qu'il veut bien entendre raison, mais que les gens ne lui forcent pas la main. Le maire a dit que c'est à genoux qu'il lui demande de prendre les responsabilités qui sont les siennes pour libérer le pays. Parce que la constitution sénégalaise est là. On veut faire en sorte qu'on torde le cou à cette constitution. Je crois que tous les pays africains, surtout dans notre sous-région, il faut que les gens respectent les tests. Et ce sont les tests qui permettent de réguler un pays. Toutes les populations qui sortent et dont vous parlez, c'est parce qu'on sait comment ça se passe. Tout le monde à cette table a dit que c'est ce mutisme qui permet aux gens dernier recours de dire bon voilà, je suis candidat parce qu'on a essayé et on a vu que rien ne s'est fait. Vous parlez bien entendu de la justice. Quelqu'un dit ici comment on a accusé Sanko et comment on a vu que ça ne donnait rien. Et qu'on a cherché d'autres boubous pour lui porter et qu'il lui tient bien. Donc ça veut dire que si les gens vont faire recours à la justice, la même justice va leur donner la potion magique qu'il fallait pour calmer et avancer.
Merci Arimiaou, on termine avec Boukari Mouchou.
Oui, mais j'aborde le sujet dans le même sens que les confrères. Mais il faudrait qu'on relève un petit point. Le petit point, c'est quoi? Jusqu'ici, je crois que les candidatures ne sont pas encore lancées. Macky Sall est dans sa mandature. Ce n'est pas en fini. Mais quand, par exemple, vous donnez de l'eau à quelqu'un, il est obligé de l'utiliser. Il garde le mutisme, il ne dit rien, il dit quoi, il ne dit rien, il dit, ne dit pas ce que vous voulez entendre. Ne lui prêtez pas l'intention. Ne menez pas à dire ce que vous voulez entendre. Voilà. Je crois que ici, les hommes politiques sénégalais doivent faire extrêmement attention.
Justement.
Le truc, tout ce qui se passe là-bas aujourd'hui, ça revient à tous les hommes politiques qui sont au Sénégal. Il ne faut pas accuser Macky Sall. Et il ne faut non plus accuser Sanko. Sanko est citoyen sénégalais comme tout le monde. Donc, quand on l'appelle à la justice, parce qu'il y a un dossier qui le concerne, il n'a qu'à répondre. Mais quand, par exemple, tout le monde trouve que, bon, cette justice elle est corrompue, c'est du système ceci. Oui. Vous vous mettez déjà en tête quelque chose. Ça veut dire que même si vous êtes devant les magistrats, vous ne pourriez pas défendre votre dossier.
C'est plus la confusion.
Merci, voilà. Merci. Un tour riche et varié sur la situation, ce à quoi nous appelons et Macky Sall et Ousmane Sonko et toute la classe politique, c'est de savoir se garder de ne pas franchir le Rubicon.
Notre
Le Sénégal attend un rendez-vous important en 2024, l'élection présidentielle, et surtout, ce pays va produire, exporter du pétrole et du gaz naturel. Nous savons comment une richesse peut devenir malédiction si ce n'est pas bien managé. Cette situation de chaos, hein, ce n'est pas bon du tout, alors que l'extrémisme violent est déjà aux portes du Sénégal. Ça c'est de deux, tout ce qui est détruit au Sénégal, hein, tout ce qui est détruit au Sénégal, même les infrastructures les plus modernes qui viennent d'être inaugurées sont vendangées, sont pillées. Et quand il faudra reconstruire ça, ce sera avec des fonds publics. C'est encore le contribuable sénégalais qui devra se serrer la ceinture pour les financer. Nous en appelons à ne pas confondre les manifestations publiques qui sont légitimes et légales avec les destructions des biens publics dont le coût reviendra encore à la charge du Sénégal. Nous en avons connu un peu ici au Togo. Hein, nous voudrions vraiment que nous copions les bons exemples et pas qui est mauvais.
Non, ici,
je souffrais qu'on avance. Il est déjà 11h28. Le suivant, nous avons beaucoup parlé de la constitution au Sénégal. Nous avons aussi notre constitution de la 4e République, dont Abdou Assouman a été le gardien pendant plus de 16 ans, lequel Abdou Assouman a quitté le monde des vivants il y a quelques jours. C'était le 25 mai 2023, alors qu'il avait 78 ans d'âge. Il y a eu une petite polémique ici que les pouvoirs publics avaient observé un silence autour de la mort d'Abdou Assouman, qui a été quand même de son vivant un monument et de la justice et de la politique au Togo. Dieu merci, il y a quand même un programme officiel d'hommage. Et si le programme est suivi, pendant que nous sommes au studio, à la place des fêtes de la République, les hommages officiels doivent être rendus à Abdou Assouman. Et après, il s'en suivra la prière au centre Kadhafi. Et après, Abdou Assouman ira reposer dans la terre togolaise. Revue de presse avec une nouvelle opinion qui nous rappelle le décès du président de la Cour constitutionnelle, le Togo, qui rend un dernier hommage à l'illustre disparu, pendant que Mega Info, lui aussi, parle de l'inhumation de feu Abdou Assouman après les hommages qui doivent se dérouler actuellement. Même tour de table, seulement je prends le tour dans le sens contraire de la première fois. Harry Niaou Djaniaou.
Moi, je crois que Abdou Assouman, ce n'est pas quelqu'un qui est étranger à tous les Togolais. Et tous les Togolais connaissent, surtout quand vous allez dans le monde de la justice, les gens parlent d'un homme riche en parcours dans le domaine et qui a fait beaucoup dans le milieu, puisqu'il est en tout un magistrat. Il a fait beaucoup, lancé beaucoup d'élan, et puis il est l'acteur, un moteur qui a permis à notre justice d'avoir certains leviers qui lui permettent de se faire voir aussi bien au Togo qu'à l'étranger. Et à la fin, Abdou Assouman, tout le monde l'a connu à la tête de la Cour constitutionnelle, et tout ce qu'il a eu à faire et tout ce qu'il a fait comme travail. Et au-delà de ce poste stratégique qu'il occupait, Abdou Assouman dans la société est une référence. Je ne peux pas dire combien sont les témoignages émouvants que les uns et les autres font de l'illustre disparu. Et quand vous allez, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu que les plus forts piétinent les pauvres. Et quand, quelque part, il se tranche des dossiers où on sait qu'on a brimé et qu'on a piétiné le droit, Abdou faisait de tout son poids pour qu'on rétablisse. Quand les gens ont des petits problèmes, et que ce soit de communauté d'un peu partout, Abdou intervient. Il avait même, avant de partir, il avait mis sur pied une fondation qui était dans le vrai combat du djihadisme, une fondation qui permettait de faire connaître l'essence de l'islam à ceux qui ignoraient et à ceux qui croyaient que l'islam était une religion de violence ou l'islam était le soubassement même du terrorisme. Aboudou menait tous ces combats-là. Aujourd'hui, Aboudou est parti. C'est vrai que à une époque donnée, il y avait une polémique. Peut-être que les gens ne voulaient pas faire porter une tenue politique à Aboudou Assouma, qui occupait un poste de neutralité. Parce que Aboudou, déjà, la Cour constitutionnelle était là pour tous les Togolais, était là pour trancher quand ça ne va pas. Ce n'était pas quand même de bon augure qu'on dise que bon, voilà, c'est tel parti qui saute le premier pour dire que c'est notre homme ou qu'un autre parti le fasse. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça, on est en train de rendre un ultime hommage à l'homme par rapport à tout ce qu'il a fait et nous prions que la terre lui soit légère et que Allah le reçoive dans
Merci.
Son paradis.
Jean-Baptiste Assisto, Aboudou Assouma, magistrat, il a gravi tous les échelons depuis juge d'instruction jusqu'à procureur général après la cour d'appel. Il a été pendant quelques mois ministre délégué à la défense auprès d'un certain Yassine Béadéma. Il est membre fondateur de la Commission nationale des droits de l'homme, dont il a été le premier vice-président. Il a été également syndicaliste. Hein. Il a aidé à créer un syndicat de magistrats dans le corps de la justice. Il faut dire que Aboudou Assouma n'a pas été que président de la Cour constitutionnelle.
Oui, il n'a pas été que ça, mais sur le plan professionnel, tu l'as dit. Et je crois que c'est lui qui était procureur de la République au moment en 90.
Le 5 octobre 90.
Lors du premier, du fameux procès des étudiants qui a dégénéré un affrontement.
C'est ce que nous savons.
C'est ça, oui, en 90, avec ses corollaires jusqu'alors. Et aussi.
Alors, si tu rappelles Abdou Assouma, il faut également rappeler que le président du tribunal ce jour-là.
Ce jour-là était l'actuel ministre de la justice. Plus de Agbetome, justement. Absolument, c'est les deux meneurs de ce procès du siècle, si on peut le dire ainsi. Et vous savez, avec le vent de la démocratie qui en a suivi jusqu'à ce que le mutisme ne prenne corps dans notre pays, avec la charte des partis politiques qui a vu le jour en 91, pour ne pas dire février, et avec la création des partis politiques qui s'en est suivi. Et autre plan sur lequel on doit quand même rappeler le travail de l'homme, c'est surtout sur le plan politique où il a été à la tête de, en étant à la tête de la Cour constitutionnelle, plusieurs scrutins, tant présidentiels que législatifs, sont passés par lui et les proclamations des résultats ont été sujets à polémique où parfois les résultats, les chiffres qu'il publiait à l'époque parfois dépassaient les 100% si on fait le cumul des résultats obtenus par les différents candidats à ces élections.
Qui le validait.
Il le validait et ça créait beaucoup de polémiques au sein de l'opinion parce que, en bon mathématicien, quand on fait un calcul, surtout pour les pourcentages, ça devait donner 100%, mais bon, ça dépassait et on se demandait comment est-ce que les résultats ont été comptabilisés à son niveau pour que ça dépasse les 100%. Mais toujours l'histoire.
À ce niveau, il faut rappeler que c'est la CENI
qui organise et proclame les résultats provisoires.
Ensuite, les candidats peuvent introduire un recours devant la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Je rappelle juste le processus.
Oui, le processus est là, mais quel que soit le niveau de l'institution qui est en charge de la proclamation, que ce soit provisoire ou définitif, l'essentiel est que le total des résultats doit donner 100%, mais ça dépasse ou bien c'est inférieur à 100%, ça prouve que peut-être il y a quelque chose qui cloche à quelque niveau que ce soit, parce que si,
c'est un constat.
C'est un constat, et donc ça ne devait pas être comme cela, parce que une institution telle que la Cour qu'on dirige, l'institution doit proclamer des résultats qui ne souffrent de suspicion. Mais quand on proclame un résultat et que les chiffres sont en deçà ou bien au-delà, je crois que la visibilité même de l'institution est entachée par cela. Donc c'est
aussi un pan de son parcours
qu'on doit susciter. Je pense qu'avec tout le respect que nous donnons à Abdou Assouman, beaucoup de personnes conviennent que Abdou Assouman a rimé avec fidélité.
Bon, je n'ai pas fini, mais bon.
Tu ne fais pas. Nyasimbe Yadema, Fort Nyasimbe. Nous avons un temps pour chacun.
Oui, une partie que je voudrais quand même rappeler.
Quand quelqu'un dépasse son temps, je passe au suivant.
Ok, bon, rappeler quand même sa dernière apparition au niveau des obsèques de Maître Agboibo à Couvé, où il a tenu, malgré son état, il était en ce moment souffrant, mais avec une canne, il a pu faire le déplacement de Couvé pour aller rendre hommage à Maître Agboibo, son compagnon de tous les temps.
De toujours.
C'est ça. Donc, je tiens quand même à soulever aussi cet aspect.
C'est important de rappeler que Agboibo et Assouman étaient de très grands amis depuis le collège. Les deux ont fréquenté le collège de Sokolé et depuis, ils sont restés amis, même si leur parcours politique a été différent, ils sont restés amis jusqu'à leur dernier souffle.
Voilà, moi, j'aborde justement mon intervention à partir de ce point. Abdou Assouman a comme un lien, je ne sais pas, avec la fidélité, comme tu l'as dit. C'est quelqu'un qui est très fidèle dans ses relations, très fidèle dans ses convictions. Enfin, je n'ai qu'en regardant son coup, tu as parlé de ses relations avec Maître Agboibo, il ne s'en est jamais caché. Il n'a jamais joué l'hypocrisie sur ce plan. Si des hommes politiques togolais peuvent aller à l'école à Assouman, en ce qui concerne la fidélité et l'honnêteté, je pense que beaucoup de difficultés que nous connaissons aujourd'hui sur le landerneau politique togolais auraient pu être évitées. Donc c'est quelqu'un qui s'assume. Il a ses convictions à lui, il a son orientation politique et autre chose à lui. Mais il a ses amis, des amis qui n'ont pas les mêmes convictions, les mêmes orientations que lui, qu'il garde toujours parce que l'amitié, ça n'a rien à voir avec les orientations politiques. Il a su le garder jusqu'au bout.
Que les gens assument leur position et publiquement de leur vivant.
Naturellement. Et comme on l'a dit d'ailleurs, ça s'est traduit dans cette fonction. Tu l'as dit, il a été très fidèle au général Nyasimbe Yadema de par les positions, les postes qu'il a occupés tant dans l'appareil judiciaire que dans le gouvernement un temps donné. Et il a également été très fidèle pour le chef de l'État actuel, le président Faure Gnassingbé, depuis qu'il a été nommé président de la Cour constitutionnelle, tant pour moi. Jusque-là, il est resté fidèle à l'homme, parce que s'il n'a pas été fidèle, il aurait pu être changé depuis. Donc, être président de la Cour constitutionnelle dans un pays... Non, écoutez, être président de la Cour constitutionnelle dans un pays... ne l'est pas qui veut, et le chef de l'État ne va pas quand même nommer quelqu'un qu'il ne connaît pas, quelqu'un comme ça, à un poste aussi stratégique, à un poste qui tient même l'État. Parce que le président de la Cour constitutionnelle peut faire basculer le pays d'un jour à l'autre sur des événements donnés. Nous l'avons parlé tout à l'heure des élections législatives, des élections présidentielles. Mais il n'y a pas que des élections, même sur des sujets de droit, de la constitutionnalité des lois, des lois organiques, des lois qui créent un certain nombre d'institutions de la République. Si le président de la Cour constitutionnelle n'est pas quelqu'un de confiance, n'est pas quelqu'un de fidèle, il fait basculer le pays et c'est pas normal. Et donc, mais ce qu'il faut relever aussi, c'est que Assouman...
Ton temps est en train de partir.
Quelques secondes, Assouman, les Togolais le voient rarement, et la jeune génération plutôt le voit rarement, et c'est surtout à l'occasion des élections et quand la Cour constitutionnelle devrait sortir pour programmer les résultats définitifs. Sur ces dernières sorties, notamment la toute dernière, et pour laquelle on l'a connue en 2020, je crois qu'il a tellement lui-même, par sa sortie, agacé le chef de l'État qui était à côté, vu sur des images qui parlent, et il a un peu mis un peu de zèle. Peut-être la fidélité, l'excès de la fidélité a viré à l'excès de zèle un peu dans ses propos qu'on voit aujourd'hui.
Sauf que sur la fidélité,
mais que ses œuvres
a été fidèle au poste qu'il a occupé et non pas nécessairement à la personne des chefs de l'État qui était là. C'est ce que c'est
Non. Si j'ai parlé de chef de l'État, ça n'a rien à voir avec la
politique.
Le chef de l'État est garant de l'État.
Non, le chef de l'État n'est pas garant de l'État. Il n'est pas garant de l'État. Quand on parle de fidélité au chef de l'État, je ne suis pas d'accord. Fidélité à son poste, fidélité au peuple togolais. Il n'est pas fidèle. Être fidèle à un chef de l'État, ça veut dire faire la volonté du fidèle de l'État. Ça veut dire que si Bon, tout ce que vous savez qui tourne autour des élections, ça veut dire que c'est grâce à cette fidélité. Non, j'ai dit, non, c'est pas cela. Moi, j'ai salué vraiment sa fidélité vis-à-vis de ses amis qui ne tenaient en compte, qui ne tenaient pas en compte les partitions politiques. Vous avez parlé de son déplacement, de son état de santé à Couvé pour assister à l'inhumation de feu maître doyen à Bouévo, qui est ton grand-père. Mais
grand-père. Façon biologique et
oui,
familiale.
Oui, tout à fait. Au vu de toi et moi, notre âge. Et c'est ça la référence. Il a démontré que ce que nous faisons n'a rien à voir avec nos appartenances politiques, ça n'a rien à voir avec nos ethnies. Nous devons travailler. Ce sont des intellectuels. Ce que moi je voudrais retenir et dire, parce que nous, le monsieur a commencé par travailler avant que nous ne naissions, ce que je peux dire aujourd'hui, si le monsieur a été une référence vraiment dans l'appareil judiciaire, je souhaiterais plutôt que l'actuel appareil, ceux qu'il a laissé, les membres de la Cour constitutionnelle, quand on parle de la Cour constitutionnelle, on a comme l'impression que c'est lui seul qui travaille. Non, il y a d'autres membres autour de lui. Que tout l'appareil prenne en leçon tout ce que M. Abdou Assouma a laissé. C'est tout simplement ce que nous souhaitons. Et ce que Maître Abouba a laissé, que tout l'appareil judiciaire les imite afin qu'on puisse corriger beaucoup de choses. Ils sont déjà partis, on ne peut rien, mais maintenant, faisons du bien dans leur sens pour que demain
merci,
l'histoire nous retienne.
On termine avec Bouchaud. Juste rappeler que avec la mort d'Abdou Assouma, le chef de l'État a 30 jours depuis l'annonce officielle de la mort d'Abdou Assouma pour le remplacer, laquelle Cour constitutionnelle est déjà amputée de deux de ses membres, faute, parce que nous n'avons pas encore le Sénat, comme ce Forum Yassimbe va manager tout cela pour que nous ayons une Cour constitutionnelle recomposée, bien installée, avant d'aller aux élections législatives et régionales, sans oublier que
il ne peut pas le faire
sur toute question de droit.
J'aborde ce sujet en faisant comprendre que je crois que Abdou Assouma n'a pas été fidèle à un chef d'État. Abdou Assouma a été fidèle à son travail. Il n'a pas eu de parti pris. Et quand tout de suite le frère était
selon,
en train
selon
de...
toi.
Pardon?
Non,
quand tu donc, il n'avait pas de parti pris. Il a assumé ses responsabilités. Tantôt, le confrère parlait d'un zèle dévorant qui lui a amené à faire quoi. Non. Il a ramené les gens à ce qu'il fallait. Il les a amenés à comprendre
ce que le droit disait.
Ce n'est pas un zèle, c'est des textes. Et il a appliqué ces textes. Et je crois que là, on peut parler de fidélité avec Assouma à partir de ses amitiés. Même nous qui sommes ici, quand par exemple quelqu'un a un petit problème ou bien un problème qui le dévore ou bien qui est en train de lui mettre, quand vous avez la chance de tomber sur lui en l'appelant, il essaie de vous trouver une solution. Et pas des moindres. Voilà. Donc, dire que Assouma, il est ceci ou cela, je crois, moi je viens, il a été seulement un humaniste. Il a été humanitaire. Et même dans la foulée, il a créé une fondation, Abdou Assouma, qui travaille dans l'humanitaire, qui travaille à mener les gens à comprendre ce que c'est que l'islam. Et qu'il ne faudrait pas réduire l'islam à la violence.
Comme merci. Abdou Assouma, que tes œuvres te suivent, nous permettons de t'interpeller directement. C'est notre façon de te témoigner toute l'admiration, le respect que nous avons pour toi, Abdou Assouma. Et nous rappelons encore une fois la pensée du jour. Pour s'entendre, voilà, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes idées, mais il faut seulement se témoigner le même respect.
Il y a le temps qui
court. Le dernier sujet, nous sommes le lundi 5 juin. Et ils sont 11h46. Et si la CENI a respecté son chronogramme, depuis ce matin à 7h, le recensement électoral doit avoir commencé dans la zone 3, le nord du pays. Mouchoud, si tu étais resté à Kara, je t'aurais appelé pour que tu interviennes en direct. Mais pendant que tu es ici...
Je suis bien sûr ici, mais les tractations qui ont été faites depuis hier, avec le déploiement des agents de censeurs, et même les kits, les véhicules, les motos, les tricycles et autres, qu'on a loués pour pouvoir les mettre sur les lieux de recensement. Mm-hmm. Bon, déjà ce matin, je ne suis pas là-bas, mais j'ai des camarades ici. Ils m'ont fait comprendre qu'effectivement, autour de 7 heures,
ça a commencé.
Les bureaux de vote.
Voilà, le recensement électoral. Hein, ça a commencé, ça a démarré par la zone numéro 1 avec beaucoup de débats, pour ne pas dire de polémiques que nous avions alimentées, animées. C'est pour constater les dysfonctionnements, les difficultés. Le Conseil des ministres même, lui-même a reconnu que cette opération avait connu un certain nombre de difficultés dans la zone 1. Dieu merci, dans la zone 2, nous n'avions pas trop d'échos négatifs, même si l'opération a été prorogée de 2 jours. Espérons que la CENI a tiré tous les enseignements dans la zone 1, dans la zone 2, pour que le passage dans la zone 3 se passe bien, d'autant plus que ce sont tes parents qui ont l'occasion de se faire recenser à partir d'aujourd'hui, Uriel Enyan.
Non, dans la zone 3 où justement la préfecture de l'Abina fait partie, il n'y a jamais eu de problème en termes de discipline à l'égard des électeurs qui vont se faire recenser peut-être. Ça doit être un souci technique lié à la machine, mm-hmm. À l'expérience des opérateurs de saisie et autres. Sinon, la population en elle, le plus souvent, l'enrôlement s'achève même avant la fin des opérations.
Par le passé.
Non, je crois fermement que ça sera le cas. Oui. En tout cas, chez moi, depuis ma naissance, j'ai connu toutes ces opérations. Et je parle de chez moi, je parle de ma préfecture, c'est une préfecture.
Vous parlez de Palougou dans la
ville. Très disciplinée, qui n'a pas
fait le problème ne porte pas tellement sur la discipline des populations,
maintenant,
mais sur le viens. Fonctionnement oui. efficient
tout à
de
fait.
La CELI, de
oui,
la
ville oui.
et des opérateurs économiques, des opérateurs de saisie dans les centres de recensement.
Oui, tout à fait. C'est en amont. Les dispositions prises par la CENI et la CELI. Ce sont ces dispositions qui viennent booster le fonctionnement des opérations. S'ils n'ont pas pris de bonnes dispositions, ça ne pourra pas marcher. Vous savez, tout dépend de la CENI même depuis Lomé. S'ils ont fait un travail, je suis conscient des difficultés que cela peut rencontrer. Mais s'ils prennent soin de surmonter ces difficultés, je pense que dans zone 3, ça se passera sans trop de soucis.
Quelqu'un a-t-il un avis sur le recensement électoral dans la zone 3?
Non, on passe sur
pas dans la zone 3, mais bon, je crois que... vous savez, lors de cette opération dans la zone 1, je crois qu'on a prolongé de 2 jours, et c'est ce qui est fait dans la zone 2 également. Mm-hmm. Peut-être ça suffirait ainsi dans la zone 3, mais ce qui a lieu quand même de souligner, c'est que en se basant par exemple sur les résultats du recensement général de la population et de l'habitat qui a eu lieu l'année dernière, il y a une forte concentration de la population dans la zone numéro 1. Donc si on se base mathématiquement sur ces résultats obtenus de SGPS 5, je crois qu'on ne doit pas consacrer le même temps à ces 3 zones pour le recensement électoral. Si on doit respecter les chiffres obtenus par le recensement général de la population. Donc, ce qui justifie le grief des partis de l'opposition qui réclament un prolongement dans la zone numéro 1. Donc, si on doit être dans les règles de l'art, je crois que normalement, on doit revenir dans la zone numéro 1 pour pouvoir donner la chance à ceux qui n'ont pas pu se
sortir. Je crois que l'ANC,
certains partis de l'opposition,
a demandé qu'après la zone 3, que la CENI revienne dans la zone 1 pour offrir une session de rattrapage à ceux qui n'avaient pas pu se faire recenser, pas par leur faute, mais parce que la CENI n'avait pas pu offrir les conditions. Donc nous allons suivre cela et puis on verra bien. 11h51, mais Uriel Enyan, je suis tombé sur cet article de ton journal qui m'a intéressé. Moi, je voudrais qu'on en parle. L'article parle du nettoyage des rues dans le Grand Lomé. Et Mega Info souhaite vivement qu'on souscrive une assurance, une assurance aux agents qui font cette opération, qui s'exposent à des risques énormes, celles et ceux qui balaient les rues du Grand Lomé.
Vous savez, après des pluies accompagnées de vent à Lomé, les routes sont pratiquement impraticables.
Et c'est grâce à ces agents de surface, majoritairement composés de femmes, nos mamans, nos sœurs, nos cousines, que nous retrouvons chaque jour sur la route. C'est elles qui mettent au propre la voirie. Et maintenant, quand nous sommes allés aux informations, vous vous rappelez que depuis les années passées, à chaque fois, on enregistre des accidents dont ces femmes-là sont victimes.
Oui.
Et nos renseignements nous ont permis de constater que les prestataires, les structures qui sont en charge du nettoyage de la route, ces structures-là, ces marchés-là sont attribués par les mairies. Ces marchés-là sont attribués par les mairies et nous nous sommes référés à certains maires pour comprendre au mieux. Alors, vous savez, ces femmes qui travaillent, non seulement elles n'ont pas une bonne rémunération, mais encore elles ne sont pas assurées. Vous voyez les risques auxquels elles sont exposées sur les routes.
Oui.
Là, pas plus que l'année passée, il y avait une qui a été écrasée à GTA là-bas.
Oui.
Vous en avez parlé longuement ici. Une dame qui sort pour aller travailler, venir subvenir aux besoins de sa famille, et elle se trouve écrasée par un camion. Le problème se trouve à deux niveaux. Les consignes données par les mairies ne sont pas respectées par les prestataires. On leur dit, par exemple, de déposer des cônes à 100 mètres, 200 mètres et des lieux de prestation. Mais les gens ne respectent pas. On leur demande de porter les gilets. Les gens ne respectent pas. Tout ce qu'on leur demande, les heures, d'éviter les heures de pointe, ils ne respectent pas. Bon, tout ça, elles travaillent pour le bien de la structure ou bien pour elles-mêmes. C'est pourquoi nous nous trouvons très important que les mairies obligent les responsables des structures de nettoyage des rues à couvrir en assurance ces femmes-là pour que qu'en cas de sinistre...
Le salaire qui est payé à ces femmes, par décence, on n'en parle même pas.
Voilà.
Ces femmes qui travaillent avec des matériels vraiment désuet, anachronique, en tout cas pas avec les équipements adéquats. Elles sortent à des heures impromptues, aux heures de pointe, sur des rues qui ne sont pas éclairées avec... Non, vraiment, ce n'est pas bien. Ce sont des Togolaises et des Togolais qui font ce travail-là. Jusqu'au ministre Gilbert Barra, qui est en charge le dialogue social, il devait regarder les contrats qui sont faits avec ces sociétés pour que les femmes, en allant balayer nos rues, ne s'exposent pas à des risques à tout bout de champ. Alors, Mouchoud, nous avons la chance de t'avoir avec nous. Est-ce qu'il y a de ces opérations similaires à Kara? Comment ça se fait, le balayage des rues?
Oui, il y a de ces opérations. Il y a aussi des structures comme ça qui s'en chargent un peu partout. Sauf que, bon, au niveau de Kara, quand ces femmes et ces hommes-là se retrouvent pour entretenir les voies, ça n'accède pas à 6h30. Ils commencent le travail déjà autour de 4h.
Mm-hmm.
Puisque les voies sont... Il y a certaines voies...
Les rues sont éclairées.
Qui sont éclairées.
Toutes?
Oui, pas toutes. Il y a certaines voies qui sont éclairées. Donc, juste, elles commencent autour de 4h. Même quelquefois, même 3h, vous les voyez, elles ont déjà commencé. Il y a 5h30, 6h, elles ont fini. Donc ça fait que, bon, ils n'ont pas tellement d'accrochage avec les... Bon, comment elles sont rémunérées, ça, je n'ai pas
encore
vu la présence.
Et leur équipement matériel de travail?
Non, c'est les balais, les brouettes.
Les balais faits de nervures, de palmes et de...
Non. Ça, les brouettes pour ramasser le sable qui est entassé et avec des pelles. Bon, vraiment, c'est quand vous voyez quand même l'état dans lequel elle travaille, c'est un peu déplorable.
Merci. Donc, c'est un petit vieux constaté avec l'espoir que et les sociétés prestataires et les communes, pourquoi pas le ministre de tutelle, l'administration territoriale, même le ministre en charge du travail, de loi sociale, on devrait regarder ça. Aucun Togolais, aucune Togolaise ne devrait se sacrifier inutilement pour un travail public. D'autant plus que c'est nos mamans, c'est nos parents qui font ce travail.
Mmh.
On va terminer rapidement avec le tour des partis politiques. Liberté qui nous rappelle que le Hadi a été dernièrement à son congrès avec comme résultat les stratégies pour impulser une action plus efficiente de l'opposition. Autre parti, c'est Bati, l'un des plus jeunes partis politiques hein, qui a soufflé 4 bougies, je crois que c'était le 31 mai dernier, avec sa présidente, Vicentia Maier, généralement si discrète, mais que je retrouve depuis quelques jours dans les organes. C'est un bon début. Oui. Autre partie, c'est le cas qui n'a pas encore fini avec ses démons. Le congrès des 29 et 30 avril, congrès qui a été réouvert le 27 mai avec un bureau élu dirigé par Robert Yaoudaté, mais les contestataires continuent à s'exprimer. La semaine dernière, nous avons eu le privilège d'avoir les deux courants du car à ce plateau. Alors, de façon arbitraire, sur le cas, je décide arbitrairement et donne la parole à Jean-Baptiste et à Didier Assogba.
Je crois que, bon, en tout cas, le
90 secondes.
Ok, merci. Ça, le congrès qui a eu lieu, bon, je crois, il y a 10 jours de cela.
Le congrès réouvert.
Réouvert,
le 27 mai.
Je crois que c'est un congrès des poutistes. et je crois que ça a été fait, non pas le car de Maître Agbouibo, le car qu'il avait créé en 1991, ce qui s'est passé le 27 mai dernier, non pas la mémoire de Agbouibo, mais je ne sais pas trop, parce que, bon, les gens sont passés dans vos studios brandir les tests, mais je crois que j'ai eu quand même l'occasion d'avoir la charte parti politique.
Oui.
Et bon, la version qui est servie aux populations, c'est que si on ne faisait pas ce congrès-là, alors le cas sera forclos. Alors,
au soir
du 30 mai, dissous. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le parti Unir a fait son congrès dans les 5 ans. Je ne sais pas trop s'il a fait son congrès. Et on fait dire aux populations que si le cas ne faisait pas son congrès avant le 30 mai, le parti n'existait plus. Je ne sais pas si c'est le cas au niveau du parti au pouvoir.
Comme ce sont les militants dirigeants du CAR qui le disent, je suppose.
Ce sont des manipulations de l'opinion. Mm-hmm. Ce sont des manipulations de l'opinion parce que. Et moi, je dis qu'en tant que médias, nous devons aller au-delà de ce que les politiciens nous servent.
Oui.
Nous devons avoir les tests fondamentaux de ces partis politiques.
Alors justement, est-ce que tu es allé aux sources avec la charte des partis politiques
et bien sûr, le statut.
J'ai les deux documents avec moi que je peux te brandir.
Alors non. Fais-nous le résumé aussi bien de la charte révisée que des statuts.
Je crois que ce que la charte dit, c'est que si vous faites un parti politique fait un congrès dans les 15, les 30 jours, on doit soumettre les rapports.
Oui.
Les rapports de ce congrès. Et donc, le premier congrès qui a eu lieu le 29 et 30 avril, il y avait le président Nador qui avait même dit, ça a été ils ont brandi la lettre de décharge qu'ils ont déposée concernant ce rapport au ministère.
Est-ce que au soir du 30 avril,
oui,
est-ce que le congrès du CAR avait adopté des documents, voire une politique un document de politique générale du CAR au soir du 30 avril?
Du 30 avril, c'est ce que Colani lisait, c'est la déclaration, c'est-à-dire concernant le...
Est-ce que ce document a été adopté par le congrès du 30 avril?
Le document dont tu parles, c'est que les congrès, il y avait une commission spéciale qui avait travaillé.
C'est clair.
90 secondes.
Est-ce que c'est le congrès du CAR a adopté une déclaration générale le 30 avril 2023?
C'est la déclaration que Monsieur Colani lisait.
Et en ce moment,
Boudé par qui? C'est ceux qui ne voulaient pas entendre.
Non. Est-ce que ce que lisait Monsieur Colani a été adopté par le congrès?
C'est adopté entre eux. D'abord, c'était adopté en, au niveau de la commission spéciale, c'était adopté et lui venait que lire. Et c'est en ce moment que certains...
Rappelle que c'est à un congrès, le rapport général doit être adopté par le congrès.
Il y a une crise. C'est à cause de cette crise-là que la commission était obligée de venir la décision suppléer.
J'ai eu le privilège.
C'est parce qu'il y a eu une crise, les gens n'arrivaient pas à s'entendre qu'on a pris une décision arbitraire.
J'ai peut-être sur toi l'avantage que le lundi, j'ai reçu Nicolas Agbo, et le jeudi, j'ai reçu également Nandor Aoukou, qui nous ont servi à suffisance les deux versions de cette affaire-là. C'est vrai que nous continuons à creuser pour savoir là où se trouve le nœud du problème. Sinon, je rappelle que le congrès a été réouvert le 27 mai sur une pétition signée par 33 fédérations sur 47. C'est des documents que j'ai pu consulter dans le camp de... Maintenant, Didier Assoba, 90 secondes. Je ne sais pas quel aspect, toi, tu partages avec nous.
Non, mais moi, j'ai suivi de loin le feuilleton en cours au cas où je suis de loin ce feuilleton. Et c'est juste triste et désolant que des fidèles, que des gens, on a parlé de fidélité ici tout à l'heure, que des fidèles, des gens qui ont suivi Maître Agbouibo une bonne partie de leur vie, sinon pour certains toute leur vie, jusqu'à la disparition de Maître Agbouibo, aient pu arriver à ce stade de division et à ce stade de division au point où il est impossible pour les membres d'un même parti politique de se parler entre eux, de discuter entre eux pour arriver à un consensus si cher à Maître Agbouibo, arriver à un consensus pour se donner un bureau qui dirige un parti de la trempe, de l'histoire du cas créé par Maître Agbouibo. Moi, c'est ce qui m'attriste un peu pour tout ce qui arrive pour ce parti politique. Pour le reste, les débats de personnes, les débats d'origine, les débats de couleur de peau et tout ça, je ne me plais pas dans ces débats-là de qui vient d'où, de qui ne vient pas d'où, de qui est clair, de qui est noir. En réalité, c'est juste peinant que ça soit le CAR qui offre ce spectacle, à la nation togolaise. Je crois que Maître Agbouibo se serait déjà retourné plusieurs fois dans son tombeau en suivant ce spectacle désolant qu'offre des gens éminemment très proches de lui. Ça, c'est ce qui est triste. C'est des gens qui se rencontrent tous les jours dans le bureau de Maître Agbouibo, qui sont aujourd'hui à la tête de ces deux camps.
Ils n'ont pas été à son école. Mais
c'est juste dommage. Merci à vous deux, Jean-Baptiste et Didier. Je rappelle que selon des indiscrétions, bon, ce n'est pas une discussion, des informations avérées, c'est aujourd'hui que le président intérimaire, Kolani, doit passer les charges au président Robert Yao Daté.
Et il le fait seul, ce président.
Une que j'ai de,
alors qu'il est à la tête d'un bureau, il décide
d'aller faire. Et c'est lui, imaginez, c'est le même Kolani qui convoque le congrès.
Nous suspendons nos échanges et le temps de rebondir avec les auditeurs. 93.5 Canal FM. Il est 12h09. Nous ouvrons les antennes sur les deux numéros, le 22-21-33-74, le 91-36-63-75, et nous vous écoutons. Premier auditeur, oui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Ali.
Ali, nous vous écoutons.
Oui, il faut retenir que le sujet que vous avez commencé avec Sénégal prouve que la CEDEAO n'est pas faite pour régler les problèmes politiques. C'est avant tout une organisation à vocation économique. Retenons ça.
Okay.
Il faut autre organisation sous-régionale pour s'occuper des problèmes politiques. C'est ça ce qu'il faut retenir.
Oui.
Sinon, ce que les amis, les syndicalistes qui se sont regroupés là-bas, ils vont détruire seulement nos pays. Et en dehors de ça, celui qui a le pouvoir, il sait que c'est lui qui doit régler le problème. Il n'a qu'à anticiper en parlant de dialogue.
Oui.
Parce que avant tout, les 15 mots dont on parle, est-ce que c'est les opposants qui ont tiré sur les manifestants? C'est les soldats armés par l'argent du contribuable sénégalais qui a tiré sur ses collègues, les populations.
Oui, mais Ali, donc, Ali.
Celui qui peut arrêter,
Ali,
ça, c'est
s'il vous plaît, j'ai connaissance d'un communiqué de la police sénégalaise qui se plaint qu'il se retrouve des étrangers et des gens armés parmi les 500 personnes arrêtées.
Ça. on comprend ça. Ça, c'est le discours officiel. Nous disons que les dirigeants n'ont qu'à passer aux populations, ne pas sortir les soldats contre les populations. Ça, c'est ça qui provoque les violations. Ici, vous parlez de fidélité d'Assoumoua. Bravo à lui. Et il a été fidèle. On l'a reconnu qu'il a été fidèle à son parti uni et au président de la République. Mais retenons que toute chose a sa fin. Merci.
Je vous en prie. La preuve, Assouma lui a tiré la révérence. Maintenant, il nous reste à nous. Qu'est-ce que nous ferons de nos positions que nous occupons actuellement? L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, oui, bonjour, ça.
Oui, c'est Didier là.
Oui.
Ça fait un petit moment.
Oh, ouais, mm-hmm. C'est là. Monsieur Kanyao, bonjour.
Bonjour.
Oui, mais quand moi je vais parler du Sénégal.
Oui.
Quand j'écoute l'analyse de Muret de Kanyao sur la situation sénégalaise, et puis ramener leur analyse entièrement sur la situation du Togo, je me retrouve dans deux planètes, Terre et puis Mars. Mais Kanyao avait dit quelque chose que c'est un ballon d'essai qu'ils ont commencé au Sénégal. Non, c'est au Togo qu'ils ont commencé ce ballon d'essai. On a vu les modifications instantanées des constitutions dans notre pays. On a vu comment Bodoula a été écarté lors des dernières élections législatives et par communales plutôt, par la Cour suprême. Donc c'est ici qu'ils ont commencé. Il ne faut pas qu'ils me disent que c'est le Sénégal. Les mauvaises habitudes, c'est ici qu'ils commencent. Je voulais poser deux questions. Une petite question. Le président du Togo nous avait dit sur deux semaines à la fin du monde que c'est bon de faire deux mandats plus trois mandats. Maintenant, il est dans sa quatrième. Bientôt, cinquième, ils vont nous dire que c'est l'opposition qui a fait que la condition a été moudée. Dans quelques années, c'est ce qu'ils nous diront. Tchanyao Muret. Qu'est-ce que l'analyse sur ce que le président Faure nous avait dit et puis ce qu'il fait? Merci beaucoup.
Je vous en prie, Didier. Votre cher ami, Harry Miaou, vous répondra sûrement dans un moment. Oui. Le temps que je prends le suivant bonjour, auditeur, bonjour. Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Monsieur, oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Komla depuis Thiévier.
Komla depuis Thiévier, quel quartier?
Davier-Mondi.
Davier-Mondi.
Oui.
Très bien, nous vous écoutons.
Sinon, on vous reçoit ici, 5-5.
Ah, ça me fait plaisir.
Nous voulons. Bon, je voulais passer par ce canal d'abord pour vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la population togolaise.
Je vous en prie.
Et surtout pour la presse togolaise aussi.
Mm-hmm.
Oui, allô, monsieur Tass.
Oui.
En fait, je voulais démontrer un acte au fait qui s'est produit à 15 km de notre ville de Thiévier.
Uh-huh.
J'espère que vous allez m'excuser que ce n'est pas dans le but de. Ou bien dans le fait.
Okay. Va dire. Allez-y directement, s'il vous plaît.
Uh-huh. Et au fait, mon chef, c'est notre chef du village qui est là-bas.
C'est quel village?
Oui, de Kolokopé.
À Kolokopé.
Kolokopé à 15 km de Thiévier, c'est mon. Il est mon grand frère, en fait. Il est mon.
Oui.
Et dans la journée de mardi, le 29 mai passé, il a été agressé par un jeune avec une machette.
Ah bon?
Il a été blessé gravement avec sa femme. En fait, le gars était venu pour le décapiter, en fait. Maintenant, ce qui est très grave, je veux passer par votre canal pour dénoncer ce fait, est que le gars a été arrêté et mis en détention au niveau du commissariat de Kolokopé. Mais grande surprise à notre égard, la nuit du mercredi le 31, on ne sait pas comment le commissaire ou bien le chef de garde là-bas fait. On nous informe que le gars a été libéré au fait.
Alors, à Kolokopé, est-ce qu'il y a un commissariat ou bien une brigade de gendarmerie?
Pardon?
À Kolokopé, est-ce qu'il y a eu un commissariat de police ou bien une brigade de gendarmerie?
C'est un commissariat de police.
À Kolokopé?
Kolokopé, oui.
Uh-huh.
Maintenant, on nous fait savoir que les propriétaires de la personne en question sont venus pour prendre leur personne en question.
Eh bien, l'ami Komla, je pense que vous allez à la justice de Thiévier. Hein, vous allez voir le
bien
procureur.
Sûr, en fait, moi,
oui, s'il vous plaît, l'ami, on n'a pas le temps de tout écouter ici, mais la filière, c'est que vous allez à la justice porter plainte officiellement contre l'auteur de cet acte de violence perpétré contre votre parent et le chef du village. Merci beaucoup, l'ami Komla. Beaucoup de courage à votre famille. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour, Sass.
Oui.
C'est Bozambo.
Bozambo.
Oui.
Nous vous écoutons.
Monsieur Sass.
Oui.
Vous êtes tous des journalistes là-bas, d'investigation. Il faut se renseigner pour les peuples togolais. Pourquoi la nationalité ne se fait pas rapidement encore. On est en train d'entraîner les nationalités au domaine de la justice. Nous, les Togolais, on dit que tu dois faire la nationalité, tu dois déposer 5 000 avec tout ça là. Donc on dépose, on n'attend rien. On ne sait pas ce qui se passe. Aidez-nous pour nous comprendre. Ou bien vous allez inviter le ministre ou bien la directrice de la justice de venir nous éclaircir quel problème il y en a aux côtés de la nationalité. Et les Togolais n'arrivent même pas à trouver la nationalité.
Merci, l'ami.
Ma deuxième question.
Oui.
Et il y avait des braquages des motos dans la préfecture du Sior. Je me demande si les autorités, ils ont changé. Parce que les gens font l'assurance avec leur moto assurance. Mais si la moto est perdue, l'assurance ne couvre rien. Si on change l'assurance avec GPRS, si ta moto est perdue, on localise pour trouver. Moi, je crois que ça serait mieux. Donc, il faut que le gouvernement attende notre cri pour changer l'assurance qui ne fait rien. Si nous avons perdu notre moto, mais grâce à la GPR, on se retrouve la moto. Ça nous préserve, ça nous sera prévu.
Merci et bonne émission. Merci pour ces deux préoccupations pertinentes, aussi bien pour le certificat de nationalité que l'assurance pour les véhicules dans les motos. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, monsieur Sam.
Oui.
Mathieu. Oui, je salue tous vos invités.
Merci.
Capitule le Sénégal.
Oui.
Vous savez que, comme prend d'abord l'exemple du Burkina, nous avons vu ce que la longue dictature a causé. Nous sommes en train de voir ce qui se passe aussi au Sénégal avec la tentative du troisième mandat. Que cela nous serve de leçon, hein.
Merci.
Parce que notre paix, la paix que nous avons dans ce pays, c'est une paix précaire. Ça peut s'enflammer à tout moment. Donc, nos dirigeants prennent des mesures dès à présent pour que le tir puisse être évité. Merci.
Je vous en prie, l'ami Mathieu. Pour le problème que l'ami Komla a posé, hein, je pense que, comme je l'ai dit, il devrait aller à la justice porter plainte, mais également saisir le ministère de l'administration territoriale, c'est quand même du chef du village de Kolokope. Il devrait bénéficier d'une certaine couverture. Les problèmes posés par l'ami Bozambo pour le certificat de nationalité et l'assurance moto, c'est des réalités que nous vivons tous les jours. Les concernés savent ce qu'il faut faire pour nous rassurer. Harry Miaou,
oui,
votre ami, ton ami Didier, il a jeté deux petits pavés dans ton jardin.
Non, moi je voudrais dire bonjour à Didier. Effectivement, vous avez bien fait de dire c'est mon ami. Moi, quand je viens à ces micros, je veux avoir des gens comme Didier pour me permettre d'éclairer la lanterne des gens sur les propos que je tiens. J'ai dit effectivement qu'au Sénégal, les gens veulent s'essayer. Les gens veulent essayer des situations que peut-être d'autres pays peuvent copier. Et il me parle du Togo. Oui, au Togo, je crois que dans tous les pays, les lois, c'est au niveau de l'Assemblée que tout se prend. Et si les députés se retrouvent de tous bords, et qu'ensemble, ils arrivent à sortir une loi, cette loi, elle vaut pour la République. Au Sénégal, si la même situation se passe, la seule chose qui est intéressante ici, c'est que j'ai dit que le président respecte la constitution que son pays a. Et chez nous ici, nous avons une constitution. Tous les connaissent la loi fondamentale de leur pays. Au Sénégal, si le président Macky sait qu'il n'a pas l'autorisation ou l'onction pour passer ou briguer un mandat, il y a problème. Donc, qu'ils se prononcent et qu'ils disent que les intentions que vous voyez en moi, je ne suis pas là. Les gens disent ici à ce plateau qu'on n'est pas encore, on n'a pas ouvert les candidatures. Mais c'est l'intention là, c'est les prétentions là que les gens font à Macky, qui font que les gens se soulèvent et qui font des morts. C'est pour cela que j'ai dit que le président, s'il devrait prendre la hauteur, comme le maire de la ville de Dakar l'a interpellé, qu'il prenne le devant des choses. Et qu'ils disent, peuple sénégalais, vous êtes en train de, nous n'en sommes pas encore effectivement au temps d'ouverture des candidatures, mais je vous dis, je ne le ferai pas. Ça va pacifier le pays. Et c'est tout ce que je disais. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est le silence de Macky Sall qui fait que la situation que nous vivons, que nous regrettons, perdure. Que le président parle à sa nation. Si ce n'était pas le cas, pourquoi est-ce que le maire de Dakar l'appelait et lui disait de prendre ses responsabilités et de situer l'opinion.
En plus. Merci. Juste rappeler que c'est dans ce contexte que Macky Sall a ouvert un dialogue politique le 1er juin dernier. Nous allons suivre tout cela.
Oui.
Seulement, je rappelle que...
Oui, nous tous sommes de qui il parle.
Oui. Merci. Maintenant, on fait un tour de table. Vous avez chacun une minute pour votre conclusion. Et c'est là que vous ferez votre précision qui vous tient à cœur. Uriel,
non, moi, une je vais, minute. Hein. Oui, je vais répondre d'abord à un auditeur qui a parlé des motos, assurance moto. Vous vous rappelez la dernière fois, j'étais passé ici, j'ai dit que l'État exige au tricycle le renouvellement de leur assurance. Oui. Parce que les gens là, quand ils causent une infraction, arrivés à la police, tous, moto, tricycle, tu achètes la moto... Tu achètes un tricycle actuellement, lorsque l'assurance expire, c'est fini. Tu continues. Moi-même, ma moto qui date de 2018, l'assurance n'est pas renouvelée.
Tu n'as pas renouvelé.
Est-ce que votre moto, je suis sûr. Donc, il faut qu'on exige le renouvellement des assurances moto et tricycle. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi l'État ne le fait pas. Et on nous arrête avec nos voitures chaque fois, renouveler votre assurance. Il faut qu'on le fasse aussi pour les motos. Comme ça, lorsqu'il y a un sinistre, l'assurance saura comment te couvrir.
Merci.
C'est très important.
Les DSR qui sortent même les dimanches, les jours fériés, autant les DSR sont vigilantes avec les voitures, autant elles devraient également montrer la même vigilance vis-à-vis des motos et des tricycles. Comme on exige des voitures, le permis de conduire, l'assurance, la visite technique et autres, et la carte grise, on devrait montrer la même vigilance pour...
Le
jeune Togolais souffre trop pour que Uriel lui ajoute encore cette affaire-là. C'est mieux de l'exiger peut-être au tricycle qui transporte.
Le plus d'accidents.
Oui, je comprends. Les motos, oui, mais beaucoup plus les tricycles sont plus dangereuses actuellement sur la route. Et parce que les tricycles sont utilisés pour faire du commerce, transport, tout ça.
Moto aussi.
Ça crée beaucoup plus de problèmes plutôt que nos petites motos. Et donc, il faut qu'on exige à ces tricycles-là d'abord et après, on va voir, on fera un mouvement d'ensemble pour le reste. mais c'est compliqué pour le jeune Togolais actuellement. Ben, moi, ce que je veux dire, c'est justement par rapport au Sénégal, cette sortie curieuse de la CEDEAO. On comprend finalement que la CEDEAO s'embourbe. Elle s'embourbe cette organisation.
C'est bien que tu comprends ça, Didier. Il y a eu le Togo en 2018. Il y a eu la Guinée. Il y a eu la Côte d'Ivoire.
Non,
tu avais senti le Burkina, le Mali.
Oui, non.
Tu avais senti la CEDEAO.
Tout ça. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'ils auraient pu simplement se taire. Parce que depuis que Macky a commencé, Macky Sall, certains diront Sall Macky, ce seront. Depuis qu'il a commencé cette affaire, la CEDEAO ne lui a rien dit. C'est quand on a commencé par enregistrer le mot qu'ils ont sorti leur communiqué assez étrange pour se mêler encore, pour se ridiculiser davantage. Je pense que la CEDEAO a peut-être vocation à revenir à sa mission première, c'est de redevenir simplement une affaire économique pour ne pas s'intéresser dans les histoires politiques parce que la politique ne lui réussit absolument pas. Il faut qu'elle quitte complètement ce camp-là. On a parlé des partis politiques.
Merci. Une minute. Il faut que les autres puissent s'exprimer. Jean-Baptiste.
Oui, moi, je vais revenir toujours sur...
Une minute.
Bien sûr. Je vais revenir toujours sur le cas pour dire que Dadé et son équipe doivent se ressaisir et rétro-pédaler parce que Maître Agboibo, qui a combattu et Yadema depuis 85, a combattu la dictature de Yadema depuis 85 jusqu'en 2020 où il a disparu.
Là, c'est un militant, pas un
journaliste. A été en étant un partisan du dialogue et de négociation. Aujourd'hui, si lui, malgré tout ce que Maître Agboibo a fait pour ce parti, pour le Togo et pour l'international, par le dialogue, lui veut s'imposer. Il veut utiliser la dictature pour se maintenir à la tête du cas. Je risque que ce serait vraiment dommage pour lui. Il est jeune, il n'a qu'à se ressaisir pour revenir à de meilleurs sentiments. L'avenir va lui appartenir si il rétropédale la ce serait salutaire pour lui.
Dans le cas contraire, si entre toi et oui. Daté, qui connaît mieux Agboibo? Puisque je rappelle que Daté a été directeur de cabinet de maître Agboibo. Oui, donc bon, il est supposé bien le connaître.
Et, bon, c'est, il est, tu dis tu as bien utilisé le mot, il est supposé, mais oui. Les pratiques, ce qui se fait aujourd'hui, oui. Ressemble bien sûr à la dictature que maître Agboibo avait combattue pendant ces 30 ans.
Merci. Sûrement que les jours à venir, nous dévoilerons encore d'autres épisodes.
Oui, moi, juste vous dire, faire ramener les gens à une raison. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, ou bien ne cherchez pas à comprendre le langage politique que les gens mènent. C'est très dangereux. Quand vous rentrez dans ce truc, vous êtes même ceux-là qui allaient beaucoup plus mettre de l'huile sur du feu. Aujourd'hui, tu parles en tant que journaliste, mais je te vois. Je peux t'attribuer. Bon, vous allez m'excuser, hein, je mets ça entre griffes.
Non, nous sommes entre confrères.
Voilà. C'est-à-dire que je te vois, mais pas même sympathisant, mais tu es un activiste. Toi, tu as déjà un parti pris. Or, tu es journaliste. Tu ne dois pas aller.
Je fais mon analyse.
Oui, tu fais ton analyse. Mais tu l'imposes. Tu imposes cette analyse.
C'est pour conclure l'émission.
C'est la position de la chaîne d'artiste. C'est pourquoi j'ai parlé justement de langage politique. Il faut faire beaucoup attention.
C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Pour tous les partis. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe actuellement aussi au Sénégal. Parce que nous ne comprenons pas leur langage.
Le langage politique ne doit pas ressembler au mensonge.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui.
Mais Tiana, on n'a pas parlé.
Je croyais que tu avais répondu à ton ami Didier.
Non,
ok, mais j'avais rien dit.
Donc, pour conclure, je veux évoquer la paix. Paix au niveau du comité d'action pour le renouvellement. Paix à Dakar, chez les Sénégalais, et le repos en paix de l'âme de Aboudou Assouma, que beaucoup appellent affectueusement Kwangeli. Je sais que ceux qui se rappellent cet événement peuvent comprendre ce que ça veut dire.
Kwangeli, c'est en quelle langue?
C'est en kabyé.
Ça veut dire
prendre pour lui remettre. Et les gens ont ce souvenir. Uh-huh. Pour ceux qui étaient à l'investiture, je crois, 2015. Tout le monde se rappelle ce mot et qui a marqué et vibré Bandini. Ceux qui comprenaient.
Dommage, tu aurais dû nous donner ce surnom là du vivant d'Abdou Assouma et on l'aurait peut-être expérimenté de son vivant.
Oui.
Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine est lancée, mais nous allons partir en rappelant que pour nous entendre, nous n'avons pas besoin d'avoir les mêmes idées. Faisons seulement l'effort de nous témoigner le même respect et ce sera bien. Aussi bien pour le Togo que pour le Sénégal et un peu partout. Rendez-vous demain, mardi à 11h, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille.